Bonjour, vous êtes sur Canal Sud 92.2 et c'est Radiohead qui commence, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bonjour. Donc c'est Radiohead qui revient après un an d'absence. Autour de la table, on est quatre. Donc il y a Dominique qui est documentaliste dans un lycée. Donc Radiohead, on parle quand même d'éducation, il faut préciser. Donc Dominique. Corinne qui est instite en maternelle. Patricia qui est prof au lycée, prof de français en lycée. Et moi-même qui suis instite en élémentaire.
Naïma.
Donc. Naïma, ah oui, c'est vrai.
Alors, juste un petit point sur la musique qu'on vient d'entendre. Pas de parole, mais le monsieur qui jouait là, un des messieurs, il s'appelle Jordan Tiss. Donc, on a choisi ce petit morceau parce que TIS, c'est les technologies d'information, de la communication dans l'éducation. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
Et on commence avec un petit son qui nous présente le sujet.
Chaque fois qu'on nous a présenté l'ère numérique, parce qu'on nous dit à chaque fois qu'on rentre dans l'ère numérique, ça n'a pas raté sur les 6 dernières fois. Elle plantait l'ère numérique.
Le matin, on arrive à peu près au lycée à 7h15. Il y a une heure d'identification. Identification sur les photocopieurs. Identification pour accéder au réseau dans la salle des profs, pour pouvoir lancer des impressions. Identification pour lancer ces impressions à partir des ordinateurs, à partir desquels on s'est identifié. Identification pour accéder à l'espace numérique de travail. Identification pour pouvoir, sur l'espace numérique de travail, réserver une salle de devoirs, par exemple. Identification pour accéder à la messagerie professionnelle, pour se loguer sur notre ordinateur. Pour accéder à Pronote, logiciel de gestion des absences.
Erreur. Erreur. Accès refusé.
Mourad, Yanis, Delphine, Ingrid, Johan, ouais. Mélodie, Valentin est là, Sabrina non. Mélodie va arriver ou pas?
L'élève est en retard. Est-ce que je coche qu'il est en retard? Est-ce que je coche qu'il est absent? Est-ce que je coche qu'il est en retard de 5 minutes, de 10 minutes, de 15 minutes? Je sais pas. J'ai 5 élèves qui sont en retard sur le début du cours.
Ok, Bastien.
Donc qu'est-ce que je mets pour chacun? Ils arrivent 5 minutes après. Je retourne sur mon ordinateur. J'étais en train de faire quelque chose avec un document en PDF, par exemple. Il faut que je change d'application pour aller sur ce logiciel-là pour cocher ce qu'il y avait à faire. Peut-être pas. Peut-être que je le ferai plus tard, après, quand tout sera réglé. Mais si j'attends une heure, je prends le risque que pendant cette heure-là, ce soit passé des choses autour de l'absence.
Nous avons l'obligation de gérer les absences sur un logiciel dédié et depuis 2011, d'avoir un cahier de texte qui est géré en ligne. Là où les choses sont beaucoup plus complexes, c'est lorsque à cette gestion des absences-là sont associés des systèmes ou des procédures qui permettent d'avertir les parents de façon automatisée par SMS.
Sur les feuilles.
Ah, non. J'ai pas vu.
Non, mais dis-moi, juste, je veux juste avoir.
J'ai pas vu.
Ah non ça. Oh purée, il aurait barré. Mais non, ça faisait un truc pas beau. Non,
c'est bon.
Et on a aussi tout le contrôle qu'il y a autour de l'accès du professeur et des élèves à Internet. Tout est filtré par rapport à ce qui est de la violence et à ce qui est de la pédophilie, les sites en fonction de les mots politiques, la question commerciale et la publicité. Il y a toute une série de sites sur lesquels on ne peut pas aller. Il y a une blacklist des sites. Un debug mémorable qu'il y a eu l'année dernière, c'est que pendant une demi-journée, je crois, il y a eu une erreur au niveau académique parce que la liste est gérée au niveau académique. La blacklist a été autorisée et les sites qui n'étaient pas sur la blacklist ont été interdits. Et ça, en collège, en lycée, dans tous les établissements gérés au niveau académique. Enfin, pour en avoir entendu dans différents lieux, ça veut dire que une professeure qui faisait une recherche se retrouve avec tout d'un coup une énorme image porno devant une classe entière vidéo projetée. Donc, Et voilà, dans un autre collège, ce même jour, c'est des élèves qui sont allés voir l'administration en disant comment ça se fait, on a accès à tout, à, YouTube, à Facebook, à tout ça.
C'est tout.
Et si les élèves ne le disaient pas, personne ne s'en apercevait.
Delphine, t'as pas accès non plus.
Nous-mêmes, on a aussi grandi pendant notre scolarité avec...
Bon, je regarde dans deux si on en sort et sinon...
La possibilité d'avoir une mauvaise note en français et de la rattraper après et de se débrouiller avec ça, quoi. C'est-à-dire, on avait cette responsabilité-là. Je me suis planté en maths, je le dis pas à mes parents et je vais me débrouiller pour récupérer ça. Là, c'est plus possible, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'un professeur vient de corriger ses copies un dimanche soir, pour pouvoir se libérer de ça, il va tout de suite saisir les notes de ses corrections. Les parents qui ont soit un système d'alerte, soit qui vont régulièrement, et notamment le dimanche soir, voir leurs copies, voir les notes de leurs enfants.
Donc vous avez fiches individualisées en haut de deuxième année.
Donc on a des cas, moi j'en ai eu, de gamin qui a pris une tarte avant d'avoir la copie.
Là, ça apparaît, tous les sites consultés sont enregistrés sur votre firewall. Si vous oubliez de fermer votre session, vous serez tenu responsable des sites consultés. Veillez à bien fermer votre session.
Il ne faut pas tout rejeter en bloc. Je crois qu'il faut distinguer les technologies qu'on peut utiliser comme des outils d'accompagnement, de soutien à des cours, et les technologies qui sont plus profondément structurelles et structurantes, c'est-à-dire celles qui vont complètement conduire à une reconfiguration des rapports éducatifs ou sociaux.
Oh, c'est bien. Vous n'avez pas le cours éco-droit ? Et l'année dernière, vous l'aviez ?
Oui.
Tout ce trajet que vous avez l'élève vers le cours, il est beaucoup pris par la technologie qui vient se mettre au milieu.
Bah, allez-y, refaites la manip alors.
Et c'est ça qui est terrible dans cette technologie, c'est qu'elle s'interpose entre les profs et les élèves, elle vient se mettre entre les profs et les parents, entre les parents et les élèves, etc. Et elle vient se mettre et elle focalise. C'est-à-dire que tout d'un coup, il faut se tourner vers elle. Et elle dicte la nature de la relation et repositionne tous les rapports.
Ça marche pas. Y a quelqu'un? Allô?
Arte.
Putain, mais ça marche pas. Je suis une mule ou quoi?
Radio.
T'as mis rien qui marche. Hein. Merde, là ça marche.
Quoi?
Chier ce truc pourri là.
Comme.
Accès refusé.
Alors, c'était un son de Benoît Bory, qui a travaillé à Canal Sud, donc on connaît bien ici, et donc il l'a fait pour Arte Radio. Voilà, mais je vais te laisser faire l'intro, Domi.
Oui, bonjour. Donc, après ce petit reportage, la question, c'est l'école numérique, un rêve ou un cauchemar? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Donc, pourquoi avoir choisi de parler de l'école numérique aujourd'hui? Ben, il y a sûrement tout plein de raisons. D'abord, faut le dire, ce n'est pas une question nouvelle pour nous. Ça fait déjà plusieurs années que les outils numériques sont rentrés dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. Et pourtant, première question, on n'a jamais eu connaissance officiellement, en tout cas, d'un bilan qui aurait été fait par le ministère sur les avantages ou les inconvénients de toutes ces nouvelles technologies dans les apprentissages pour les élèves. Dans nos classes, on a des ordinateurs, bien sûr. Les plus chanceux ou les plus innovants ont des tableaux blancs interactifs, des tablettes, des liseuses, des manuels scolaires numériques. J'en oublie sans doute. Dans les CDI, là où je travaille, moi par exemple, les élèves qui ont des recherches documentaires à faire préfèrent aller directement sur Internet plutôt que de chercher d'abord dans un bouquin ou une revue. Ils ont l'impression que c'est plus facile, que c'est plus rapide. Et en fait, souvent, c'est pas vrai. Voilà. Malgré les apparences, sur Internet, on peut se noyer très rapidement. Dans les lycées, on a des ENT, des espaces numériques de travail, donc qui existent déjà depuis plusieurs années. On en reparlera tout à l'heure aussi. Dans les collèges, je crois que ça commence à se mettre en place et je pense que ça va arriver aussi dans les écoles. Préparez-vous, mesdames. Il y a déjà aussi le livret personnel de compétences électroniques. Donc ça vous parle peut-être un petit peu. Oui. Si vous avez aussi entendu parler de base élève, puisque en fait, on va le voir aussi dans l'émission, tout est lié. Il y a aussi des problèmes de fichage avec le numérique à l'école, fichage des élèves et des familles. Donc on aura l'occasion pendant cette émission de détailler toutes ces facettes du numérique à l'école ou de l'école numérique. puisque maintenant, depuis la circulaire de rentrée 2014, on parle de l'école numérique. Et cette école numérique, elle a sa place dans la circulaire de rentrée, où notre ministre, alors je ne sais pas si c'est l'ancien ou la nouvelle, annonce la mise en œuvre, donc là je cite, d'une stratégie ambitieuse pour faire entrer l'école dans l'ère numérique. Donc là on rentre dans une nouvelle ère. En fait, il existe un service public du numérique éducatif depuis la loi du 8 juillet 2013, loi de refondation de l'école de la République. Là je pense qu'il faut encore citer pour qu'on comprenne bien ce service qui se dit public, a pour mission d'organiser une offre de production pédagogique numérique à destination de l'ensemble de la communauté éducative. Bon, déjà, moi, quand on parle d'offre de production, je ne sais plus si on est dans le domaine des apprentissages ou dans le domaine économique. Donc, on nous annonce pour cette année, entre autres, des services numériques pour la réussite de tous les élèves. Là, on demande à voir. Hein. Des collèges connectés, à titre expérimental, et une formation au et par le numérique pour les futurs enseignants. Voilà, donc on n'y coupera pas. On dirait que nos ministres ont décidé de passer à la vitesse supérieure, en fait. Et nous, on s'interroge. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces annonces? Quels sont les enjeux pour ceux qui nous dirigent, ou pour ceux qui tirent les ficelles derrière ceux qui nous dirigent? Et aussi, quelle réalité, au pluriel évidemment, dans la vraie vie de nos écoles et de nos bahuts? À quel problème on est confronté au quotidien? Le petit reportage d'Arte en a évoqué pas mal. Donc en fait, ça fait pas mal d'angles d'attaque sur cette question et donc beaucoup de questions qu'on va essayer de se poser ensemble et peut-être trouver quelques réponses. Donc autour de cette table, on s'est présenté au début, nous sommes plusieurs enseignantes confrontées à ces nouvelles technologies, alors à différents niveaux ou depuis plus ou moins longtemps. Et c'est sûr, ces outils changent nos façons de travailler. Donc chacune a ses expériences, elles peuvent être bonnes ou mauvaises dans son quotidien professionnel. Et c'est vrai qu'on se pose toutes des questions sur les changements auxquels on doit faire face, qui vont parfois très vite, sur l'évolution de nos métiers, puisqu'on n'enseigne plus pareil avec ces outils, sur cette école du futur qui se dessine dans la circulaire de rentrée et qu'en fait on nous impose à marche forcée, puisque à aucun moment on nous a consulté, à aucun moment on nous a demandé notre avis sur ce qui est en train de se mettre en place. Donc bien sûr, on a des choses à dire, des expériences à raconter, des doutes quotidiens, des points de vue à exprimer sur cette école connectée. Et la question, c'est de savoir si c'est de cette école que nous rêvons aujourd'hui, et si oui, est-ce que ce rêve pourrait virer au cauchemar? Bref, nous n'avons qu'une petite heure pour aborder une vaste question qui touche aux apprentissages des enfants d'abord, et c'est ça qui est important, il ne faut pas l'oublier, à notre façon d'enseigner, à un modèle économique aussi, sans doute, et à des choix de société à plus ou moins long terme. Donc on va peut-être commencer par faire un petit tour de table pour que chacune raconte comment dans sa classe, dans son lycée, dans son école, elle vit avec le numérique. Voilà. Patricia, tu veux commencer?
Ouais. Il est 7h30. J'arrive au lycée et monte dans la salle des profs. J'allume un des ordinateurs à notre disposition et rentre mon code d'accès au réseau. J'imprime un document, puis vais à la photocopieuse et tape mon code photocopie. Voilà, les feuilles s'empilent. Je monte à la salle où j'ai mon premier cours et allume l'ordinateur qui est dans le coin près du tableau. Je veux me connecter au réseau. Zut, j'ai oublié d'éteindre ma session dans la salle des profs. L'ordinateur me refuse la connexion. Ah si, après plusieurs essais et insultes, il finit par accepter. Les élèves rentrent et s'installent. Je suis toujours penchée sur l'ordinateur et grommelle un bonjour, occupée à me connecter sur Pronote cette fois, le logiciel de gestion des absences, retards, notes, résultats scolaires, etc. Je rentre un identifiant et un mot de passe alambiqué. Ça y est, bon, je peux faire l'appel. Ah, Kader et Solène, comme d'habitude, ne sont pas encore là. Je les coche absents. Je transformerai en retard quand ils arriveront. Nous commençons. Je projette un document au vidéoprojecteur qui fait la synthèse des recherches de groupe d'hier sur un texte de Stendhal. Je suis assez contente de mon idée. Deux élèves s'installent à l'ordinateur pour faire les secrétaires pendant que la classe essaie de classer, ordonner, trier les idées pour arriver à un plan. Ça a l'air bien, hein? Ah, ça frappe. Voilà Kader et Solène, je les avais oubliés. Je me glisse donc entre les deux secrétaires qui prenaient des notes et me remets sur Pronote, sur l'ordinateur. La page apparaît en grand écran devant la classe et suscite moult commentaires sur les absences de machin en cours d'avant, les retards de trucs, etc. Bon. Je ne peux plus corriger les absences en retard, il faudra que je passe à la vie scolaire rectifiée. Nous reprenons le travail. Et nous acharnons pendant un long moment sur la notion de transition et de conclusion. Mais vlan, d'un seul coup, l'écran devient noir et l'ordinateur s'éteint. Les secrétaires lèvent les bras au ciel. Marine dit « De toute façon, l'ordinateur, c'est long et pénible. Ce n'est pas assez actif. On s'ennuie. » Échec. Heureusement, c'est la pause. Kader me rattrape avant que je file boire un café et me dit « Madame, ma mère m'a appelée. Elle a reçu un SMS du lycée lui disant que j'étais absent. » Ah, zut, détour obligatoire vers la vie scolaire. En deux clics, la surveillante corrige le tir, mais n'efface pas le SMS qui a été envoyé à la mère de Kader. Tant pis. En salle des profs, près de la machine à café, je regarde la liste des formations qui auront lieu au lycée, retenues d'après nos demandes. Il y a le webclasseur, le tableau blanc interactif, c'est vrai que le lycée en a acheté trois et que personne ne s'en sert, l'utilisation de l'ENT, espace numérique de travail, blog et pédagogie. Ah, c'est bizarre, je ne me rappelais pas de tout ça, il me semblait qu'on avait parlé de gestion de classe, analyse filmique, histoire de l'art, gestion des conflits, des trucs comme ça. Bon, tant pis, j'irai pas. J'enchaîne avec une réunion pour les professeurs principaux de première où les conseillères d'orientation nous projettent un PowerPoint avec des flèches, des noms de sites et des docs à récupérer sur clé USB. Dommage, je m'aperçois que j'ai laissé la mienne dans la salle de cours. Un collègue fraîchement arrivé au lycée et sollicité par la proviseure nous explique les bienfaits du webclasseur qui enregistre toutes les recherches faites par les élèves, les pages internet visitées lors du travail sur l'orientation et comme ça tout le monde peut ensuite aller voir les parents, les profs, les conseillers d'orientation, la proviseure, à gare à ceux qui sont allés regarder les résultats de l'OM en douce. Bref, c'est formidable quand même. Mais là, au bout d'un moment, les mots outils, numérique, passeport orientation, CV en ligne, etc. commencent à bourdonner autour de mes oreilles, je décroche. J'espère qu'on va finir avant midi, comme ça j'ai le temps de remplir mon cahier de texte sur le NT avant d'aller manger. Il faut juste que je trouve un ordinateur libre. 6 ordi pour une centaine de profs, c'est pas gagné. Tant pis, je ferai chez moi ce soir en regardant les mails de boulot qui ont rempli ma boîte aux lettres et auxquels il faut que je réponde d'urgence avant demain. Le problème avec le cahier de texte en ligne, c'est qu'il faut encore un autre identifiant, un autre code et que je finis par tout confondre. Et puis, il faut qualifier le type de contenu de séance. Cours, devoirs surveillés, exercices, exposés, autres. Bon, moi, je coche toujours autres. Et puis, on doit évaluer le temps estimé pour le travail donné à faire à la maison. Ça permet de faire des statistiques, voir qui donne des devoirs, trop, pas assez. Ah ben, je vois un drôle de truc, un onglet Nathan. Bizarre, le lycée a acheté des QCM à Nathan. Je me demande combien ça a coûté. Tiens, ce sont des exercices de conjugaison et de grammaire de la 6e à la 3e. C'est bête, on est au lycée. Ah, l'école numérique, vous m'en direz tant. Voilà, pour ma journée ordinaire dans un lycée à l'ère du numérique. Qu'est-ce qui veut enchaîner,
Naïma?
Ben moi je vais bien. Alors moi, j'ai pas de code pour la photocopieuse, j'ai pas de code pour Internet.
Non, t'as de la chance.
Ouais, ça donne pas trop les envies quand même, hein, ton truc.
Ah bon?
Ouais.
C'est le lycée du futur pourtant, tu sais, Naïma.
Ouais, mais le futur, c'est aujourd'hui.
Ouais. Mais comment c'est chez toi alors?
Alors chez nous, c'est quand même beaucoup moins codifié, on va dire, mais l'ordinateur est présent malgré tout. Moi, je me rends compte d'une chose, c'est que c'est dans le boulot, on a beaucoup à faire à l'ordinateur, que ce soit dans notre travail personnel. D'ailleurs, c'est essentiellement dans notre travail personnel. C'est-à-dire qu'on prépare nos fiches sur ordinateur. On va chercher des infos sur ordinateur. On va chercher des photos sur ordinateur. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est en train de manger la pédagogie des profs, hein, en tout cas des instituts pour ma part, je pense, c'est les sites de ressources pédagogiques où chacun peut faire un blog et on peut du coup aller chercher des fiches qui correspondent éventuellement, si on a beaucoup de chance, à la notion qu'on est en train de travailler avec nos élèves du moment. Le problème que ça pose, c'est d'abord l'adaptabilité, c'est-à-dire que tous nos élèves sont différents, et alors sans parler d'élèves, c'est nos classes qui sont différentes. Et moi, je me pose la question de comment est-ce que une fiche qui va correspondre à un moment donné, et il faut l'espérer, à une classe donc, qui a été créée par une instit qui a un blog, peut correspondre à la mienne. Ben, chaque fois que j'essaye de chercher un truc comme ça sur Internet, je trouve jamais. Donc, je finis toujours par faire la mienne, parce que ça ne correspond pas à ce que je recherche vraiment et aux problématiques qui ont été soulevées dans ma classe. Et je vois plutôt ça, en fait, tous ces sites de ressources, pas du tout comme... si, quand même, il y a une notion de partage, effectivement, mais elle peut vite tourner vers l'uniformisation, à un moment donné, des manières d'enseigner, de présenter, de poser une notion, et donc d'apprendre les choses aux élèves qu'on a en face de nous. Ça fait un peu... c'est un kit. C'est-à-dire que, si on veut, on pourrait passer notre année à pomper des trucs sur Internet et à les balancer dans nos classes sans jamais se poser la question de « Bon, qui est, moi, dans ma classe, il y a qui ?» et ça, c'est problématique. C'est vraiment quelque chose qui me pose des questions. Et du coup, donc, par rapport à cette consommation de l'ordinateur, moi, je m'aperçois que j'écris de moins en moins. Alors, est-ce un mal, est-ce un tort ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je fais mes fiches sur ordinateur et je ne me vois pas faire mes fiches autrement, quoi. Pas à la main, encore moins à la Ronéo d'il y a 20 ans, quoi. Donc, ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est la communication avec les collègues ou avec la hiérarchie, par exemple. Tout se fait par mail, maintenant. On ne s'appelle plus, on ne se voit plus. Donc, c'est pas plus mal qu'on ne voit plus nos inspecteurs dans nos écoles. Mais par contre, voilà, tout se fait par mail. Et tout a tendance à avoir... Il y a une communication un peu moins formelle. Et j'ai envie de dire, ça me gêne. Parce que l'inspectrice, ce n'est pas ma copine. Et donc, je m'astreins à écrire avec des tournures hyper formelles pour maintenir cette espèce de distance. Parce que parfois, les mails aussi, on répond vite et on perd un peu on perd la nature de la relation, quoi.
De la relation hiérarchique.
Exactement. Et donc pareil, bien sûr, pour tout ce qui est partenaire, entre guillemets, de la vie éducative. Donc par exemple à la mairie, si on a besoin de quelque chose. Mais non, tout se fait par mail. Voilà, on n'appelle plus. Envoyez-moi un mail. D'accord, on va envoyer des mails. Et pour finir, moi, il y a aussi une autre chose qui est un peu qui me pose aussi question, c'est nos formations à nous, donc toi aussi, hein, web outils,
web classeur.
Bon, ben nous, on a magistère et en fait, bientôt, on va se former. Enfin, c'est maintenant, là, tout de suite. C'est pas bientôt, c'est là. On va se former par Internet. Voilà. On n'ira plus en formation, on va se former sur le net. Ça, c'était de mon point de vue à moi. Après, il y a les élèves aussi, les élèves qui ont affaire aux ordinateurs. Donc moi, il y en a 3 dans ma classe. Et ils sont utilisés assez en autonomie. Mais voilà, j'en ai 2 qui sont reliés à Internet sur les 3, avec un filtre de l'académie. Donc nous n'avons pas accès à YouTube, effectivement. Et ils font essentiellement de la recherche et du traitement de texte. Mais plus ça va, plus ils ont du mal à... Parce qu'ils explorent l'outil de plus en plus. Et il y a de plus en plus de questions ou de plus en plus de remarques du genre « Mais il ne veut pas chercher !» Donc, mais ce n'est pas il qui cherche, c'est toi qui cherches. Donc, c'est dur aussi pour l'élève, donc ils ont 8 et 9 ans, hein, de comprendre que l'ordinateur, il ne fait pas ce qu'il veut, c'est nous qui lui faisons faire ce que nous voulons. Et voilà, et juste pour finir, donc, comme toi, tu as combien 6 ordis pour combien de profs ?
Une centaine, je pense. Ouais. Hein. Ouais.
Ben, nous, on a 8 ordinateurs portables pour 120 élèves.
Non, voilà. Non, c'est pas mal.
Mais on est à l'ère du numérique.
Ouais.
Qui ne sont pas reliés entre eux, hein, non plus. Donc, il ne faut pas se planter d'ordinateur.
Ah ouais, mais si un jour vous avez un réseau, vous aurez des codes. Alors, attention, hein, faut pas trop vous plaindre non plus. Ouais. Par rapport à l'équipement, je pense que peut-être dans le cours de l'émission, on va avoir l'occasion d'en parler, mais juste une petite chose, il y a effectivement des départements qui ont choisi, je pense au niveau des collèges dans les Landes, d'équiper chaque enfant d'un ordinateur portable. Il y a des départements aussi qui ont choisi, alors ça je crois que c'est en Corrèze, par exemple en maternelle ou en CP, de donner une tablette à chaque enfant. Et donc, évidemment, c'est critiquable, on ne se gênera pas pour le faire tout à l'heure, mais voilà, il y a différentes visions quand même de ce que doit être l'équipement en matériel d'un même établissement, même s'il y a des efforts qui sont réels depuis plusieurs années pour équiper les écoles. Donc, quel genre d'efforts on doit faire, c'est bien sûr à discuter. Alors, moi, en maternelle, ça rejoint un peu ce que tu dis, Naïma, mais à un niveau
un peu inférieur, bien sûr. Bon, d'abord, moi, j'ai un seul ordinateur dans la classe et il n'est pas portable et il n'est pas jeune. Mais c'est pas grave du tout et j'ai pas internet dessus. Donc les enfants ne vont pas chercher sur internet.
Mais t'es hyper en retard.
Voilà. Mais par contre, bon, ils ont, je leur donne un certain nombre de jeux pédagogiques sur lesquels ils vont en libre service et sur lesquels ils passent un petit peu de temps. Mais c'est vraiment très peu finalement dans une journée. Ils y vont pas forcément chacun dans la journée du tout. Hein. Disons que chacun y va au moins une fois dans la semaine. On va dire ça comme ça. Voilà, ça c'est pour l'utilisation des enfants. Pour moi, effectivement, je trouve que ma pratique, elle a changé. Ma pratique de préparation de classe a énormément changé. Effectivement, disons qu'il y a 15 ans, l'ordinateur, il était que pour moi. C'est-à-dire, je préparais jamais avec mon travail avec l'ordinateur. Aujourd'hui, je me sers de l'ordinateur pour préparer, mais pour faire de la recherche documentaire. Voilà. Et effectivement, le problème des fiches toutes faites sur les sites, c'est un problème réel parce qu'on rentre dans le côté apparat. C'est-à-dire qu'on tombe sur des sites qui sont magnifiques. Franchement, il y a des gens, alors je ne sais pas comment ils trouvent le temps, mais qui préparent des sites sublimes. Tout est joli, bien fait, donc on a l'impression que ça y est. Si on veut aborder une notion, évidemment, c'est ça qu'il faut. Donc, on peut être très facilement tenté d'aller piocher ça hein, et de ne pas réfléchir à soi, son classe, son problème, etc. Alors, j'ai un avantage, on va dire peut-être plus par rapport à toi, c'est que si je fais ça, et que je le donne tel que à mes élèves y ratent. Mmh. C'est-à-dire que le passage sur la fiche avec les petits, c'est toujours très compliqué. Donc, c'est assez vite fait que si on s'est planté et qu'on n'a pas choisi de la présentation et la forme qu'il faut pour les enfants, ils ratent. Donc, finalement, il y a quand même aussi toujours une autocorrection de l'enseignant qui doit se faire. Alors, effectivement, mais ça reste problématique parce qu'un jeune enseignant qui arrive, évidemment, il ne sait pas quoi faire. Donc, de même qu'avant, en élémentaire, on prenait les manuels et on allait vraiment utiliser beaucoup ça, mais ils sont très tentés de prendre des fiches toutes faites et d'accumuler les fiches et les enfants passent à côté des notions quoi. Donc ça c'est un réel souci. Alors quant à magistère, effectivement c'est une chose qui commence à nous toucher hein, donc du point de vue de la formation comme on disait, et ce n'est que le début parce que en fait ils veulent le généraliser d'abord au secondaire, j'ai lu des choses apparemment ça va passer dans le secondaire aussi, et ils veulent en faire vraiment un outil de formation qui soit au-delà de la caricature, on va dire, d'être soi-même aussi en face d'un cours et regarder ce qui se passe et prendre des notes comme si on avait quelqu'un qui nous faisait une conférence. En fait, ce qu'ils veulent, c'est vraiment faire des espèces de modules de formation où on écoute une intervention, où on voit différents documents, où on nous pose des questions en cours de route, hein, et où on est censé se réapproprier ce qui est dit pour ensuite l'utiliser dans des pratiques avec ensuite éventuellement un contrôle de est-ce qu'on a utiliser ces choses-là, pourquoi, comment, avec la notion de partage aussi, on nous poussera à partager avec les autres à partir de ces formations-là, etc. Donc il y a un vaste plan, ça se construit jusqu'à 2017, et on aura également avec l'obligation, par exemple, pour chaque école d'avoir un site web où on marquera aussi, nous aussi, les absences des enseignants, par exemple, pour que les parents soient au courant, les absences, les problèmes, un truc très matériel de la cantine, etc. Et il y aura même des informations aussi sur, par exemple, à destination des parents pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que le CP pour qu'ils puissent s'informer via l'ordinateur, etc. Donc il y a tout un truc qui est vachement plus large que juste une formation là. Je veux juste dire un truc qui, moi, m'a fait me révolter par rapport à ce magistère. Hein. C'est que les inspecteurs, certes, ils ne viennent pas souvent dans les écoles et, en tout cas, la façon dont ils viennent, ça ne nous plaît pas beaucoup. Mais malgré tout, ils doivent évidemment avoir un regard sur ce qu'est l'éducation. Mais ils l'ont pas, ce regard-là. On nous regarde, en fait, on ne nous regarde pas faire de la pédagogie. On a l'impression que tout le monde s'en fout, en l'occurrence. Et là, tout d'un coup, on va être devant un ordinateur et là, on va avoir un contrôle sur est-ce qu'on a bien suivi la formation. Donc, jamais on regarde ce qu'on fait en classe, on n'en a rien à faire qu'il y ait des enfants en difficulté. Et tout d'un coup, on va nous demander si on a bien regardé le petit film sur fait par machin. Là, il y a quelque chose qui est hyper choquant pour moi et qui fait que, effectivement, je refuse de rentrer dans ce protocole de formation. Voilà.
Domi, alors ?
Oui, bah, alors moi, en tant que documentaliste, je ne sais pas si je dois dire que je suis au cœur de la tourmente ou dans l'œil du cyclone. En tout cas, je pense qu'on est très très mal par rapport à notre avenir. Donc nous, on est coincés entre des inspecteurs et des ministres qui nous sommes d'équiper nos CDI de tous ces beaux outils, donc e-book, tablette, liseuse. On doit être sur les réseaux sociaux, on doit être sur Twitter, on doit avoir un compte Facebook, on doit vendre... ce qu'on fait dans nos CDI sur l'ENT, on doit mettre en place des portails documentaires, de la veille informationnelle, documentaire pour les enseignants, pour les élèves. Voilà, donc ça, tout ça, ça nous tombe dessus. Je ne sais pas, il y a des collègues qui y arrivent, je ne sais pas, est-ce qu'ils travaillent toute la nuit, le week-end. Moi, je n'y arrive pas. Quand je suis au travail, je m'occupe des élèves et je n'ai pas le temps de tweeter ou d'aller sur Facebook. Donc, je ne le fais pas. Après il y a les élèves, donc eux ils sont nés là-dedans, donc ils ont des pratiques, des façons d'aborder le travail qui sont imprégnées de ça, donc leurs pratiques de lecture ont changé forcément. Ils disent qu'ils aiment pas lire, en fait ils passent leur temps à lire sur des écrans mais ils s'en rendent pas compte, mais le livre ça leur fait un petit peu peur. Quand ils ont des travaux de recherche, comme je disais tout à l'heure, hop, c'est Google est mon ami, je pratique le copier-coller, je ne regarde pas que j'ai collé, je ne le lis surtout pas parce que ça prend trop de temps et j'aurai un super truc sur Word, merci Microsoft, et voilà, donc il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de recherche de sens, voilà. Et du coup, on a des inspecteurs aussi qui nous demandent, à nous les documentalistes, de former nos élèves à tous ces usages, de les prévenir des dangers d'Internet, parce que quand même, il y a des dangers sur Internet, la pédophilie, tout ça, de travailler sur leur identité numérique, comment ils se présentent sur Facebook, etc., etc. Donc, en fait, c'est une façon de nous dire, bon, de toute façon, tout ça, c'est là. Maintenant, il faut faire avec, il faut travailler avec, donc il faut éduquer les élèves à ça. Voilà. Donc ça, c'est une des missions qu'on nous demande de prendre en charge, voilà, comme on peut. Voilà, donc ça, c'est assez désagréable. Et puis, voilà, moi, je me pose des questions aussi sur tous ces outils qu'on nous demande d'acheter. Donc l'an dernier, par exemple, j'étais à une réunion avec notre inspecteur. Donc je n'y vais pas tous les ans et là j'avais décidé d'y aller parce que la thématique c'était la lecture et ça faisait très longtemps qu'on ne nous parlait plus de lecture à nous les docs. Donc j'ai dit ah, quelque chose qui change, et puis quand je suis arrivée, douche froide, oui c'est la lecture numérique, ah d'accord. Donc en fait j'ai craqué en cours de route parce qu'on nous a présenté sur un PowerPoint des outils, donc des tablettes, des liseuses. Alors les marques, Microsoft, Apple, tata, les avantages, les inconvénients, les caractéristiques techniques, les prix, voilà, pour nous aider à choisir. J'avais l'impression d'être à une réunion de Tupperware, mais à aucun moment on n'a parlé de concrètement qu'est-ce qu'on fait sur le terrain avec ces outils et nos élèves pour les aider à lire. Donc l'argument de l'inspection, c'est plus attractif pour eux, etc., etc. Mais bon, moi je préfère avoir 500 livres qu'une liseuse où je peux en mettre 2000, parce que les livres je les prête, ça circule, voilà. Une liseuse, bah, elle est au CDI et voilà, il n'y en a qu'une. Voilà, donc ça c'est un peu notre quotidien à nous, et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir, parce que je pense que de plus en plus, même dans le concours, en fait on devient plus des techniciens de l'information que des pédagogues, et je pense que ce qu'on va attendre de nous dans les prochaines années, c'est d'alimenter des bases de données en ligne, donc faire de la veille documentaire effectivement, qui sera accessible de n'importe quel ordinateur. Du coup le lieu même CDI avec les bouquins va perdre beaucoup de son intérêt, donc voilà, il y a une grosse inquiétude chez les documentalistes par rapport à tout ça.
Alors, pour enchaîner avec la multitude de questions qu'on a et qu'on se pose, parce qu'on est déjà bien avancé dans l'heure de Radiohead. Alors, peut-être pour partir depuis le début sur ce que tu as dit, sur cette circulaire de rentrée qui reprend l'idée d'école numérique, mais qui n'est pas toute récente. Une des questions qu'on avait, c'était pourquoi les différents ministères de l'Éducation nationale, mais notamment Payon puis Hamon, insistent-ils autant sur le passage au numérique ? Qu'est-ce que c'est les enjeux ?
Vas-y, ouais. Moi, je peux essayer d'apporter au moins une explication. Je pense que derrière, il y a des gros enjeux économiques.
Comme les... ta réunion Tupperware, c'est ça?
Voilà. Donc, il y a Microsoft. Alors, on peut donner un exemple. Hein, ICI Les Moulineaux, Microsoft, il a une école qu'il appelle, faudrait que je retrouve, l'école immergée, je crois. Donc, dans les locaux de Microsoft, les enseignants du public peuvent aller avec leurs élèves s'initier. Alors, c'est des écoles... Voilà, tout est tactile, il y a des écrans partout, quand on marche, ça s'allume, voilà. Donc, et donc Microsoft fait son business comme ça. Bon, après, il y a sûrement de gros intérêts en jeu, je pense, et c'est pour ça que depuis quelques années, on dit que... Enfin, on refuse du moins que l'école soit une entreprise et que l'enseignement soit une marchandise, mais c'est quand même ça qui est en train de se passer.
Oui, puis il y a aussi, je crois, un des enjeux, c'est étrangement qu'il y a une espèce d'injonction à la modernité, à la modernisation technique et technologique de l'école. La France est classée en retard dans l'Union européenne comme étant la 24e sur 27 sur l'utilisation du numérique dans l'éducation. Donc il faudrait rattraper ce retard absolument. On a l'impression que cette injonction technologique, elle est aussi pour le bien des enfants. C'est-à-dire qu'il faut que l'école prépare les enfants à leur environnement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
En fait, déjà, je crois que on part du postulat que la technologie peut améliorer l'éducation. Et ça, c'est vraiment à démontrer. C'est pas du tout sûr que l'utilisation de l'informatique améliore les pratiques et facilite les apprentissages pour les enfants. Donc, est-ce qu'il faut vraiment aller dans ce sens? Bon, ça, c'est déjà une question. Il y a quand même un certain nombre d'enquêtes là-dessus. Mais après, par rapport aux enjeux économiques qui sont derrière ça aussi, il est clair que l'utilisation de l'informatique modifie les pratiques d'apprentissage, modifie ce qu'on apprend et comment on apprend. Et par rapport au devenir de l'enfant et à sa position plus tard dans la société en tant que travailleur potentiel, on a des gens qui sont formés complètement différemment. Alors effectivement, les gens vont être de plus en plus aptes à utiliser les outils numériques qui sont présents partout dans tous les métiers, mais avec des niveaux de compétences qui sont complètement différents entre quelqu'un qui a fait des études, qui a été en fac à bac plus 5 et qui a utilisé l'ordinateur, et quelqu'un qui a un niveau brevet et qui a utilisé l'ordinateur, c'est pas du tout la même utilisation du numérique. Et les gens sont formatés à avoir un certain type d'utilisation et ne deviennent pas plus intelligents par le numérique. Ils deviennent plus exploitables, par contre, ça c'est certain.
Et plus dépendants.
Voilà.
Et pour rebondir sur ce que vous disiez d'un point de vue économique, il y a deux aspects qui sont l'entreprise en tant que telle, l'entreprise numérique. Alors elle peut s'appeler comme on veut, hein, Microsoft, Apple, tout ça machin. Et puis il y a aussi tout l'aspect remplacement, le côté machine quoi. L'informatique, c'est quand même vachement lié à l'outil, à la machine. Et bon, la machine, c'est pas nouveau, hein, elle a tendance à remplacer l'homme pour plein de choses. Alors, il y a des choses où c'est très bien, et il y a des choses où, effectivement, on peut se poser la question. Et ça permet aussi de faire des économies. C'est-à-dire que si jamais on développe un cours sur Internet qui pourrait... C'est vraiment qui pourrait, hein, au conditionnel, correspondre à 1000 enfants.
Mais tu parles des MOOC.
Ouais,
c'est quoi les MOOC?
C'est Mimi comme nom.
Il y a quelqu'un qui peut expliquer, je ne me rappelle plus ce que c'est le MOOC.
Le Massive Open Online Courses.
Yes. Alors quoi, qu'est-ce que tu leur reproches, MOOC?
Eh bien, je leur reproche que, encore une fois, c'est formater, c'est uniformiser l'apprentissage. C'est vraiment, je sais pas, moi vraiment, j'ai du mal, hein, avec tous ces trucs sur Internet là. Hein. Ça fait deux fois que j'en parle là maintenant, mais les trucs tout près sur Internet, ça pose question vraiment. Et donc ces MOOC, ça permettrait de faire des économies de profs. faut quand même pas oublier qu'on en a supprimé 80 000 et que si on pouvait ne pas en remplacer un seul et plutôt faire les MOOC, et ben je pense que d'un point de vue économique, ça peut être intéressant.
Alors effectivement, c'est pas dit comme ça pour l'instant, mais bien sûr qu'on peut penser à ça, parce que même quand on parle de ce plan numérique, il y a l'aspect des cours, mais il y a l'aspect du travail personnel, etc. Et donc, on pourrait très bien imaginer qu'il y a des parties où il y a le prof en face, en réel, en concret, des parties de la journée qui sont consacrées à ça, et d'autres parties où les enfants travaillent sur l'ordinateur en l'absence du prof, ou en tout cas éventuellement avec d'autres gens. Donc, ou des gens moins formés, moins payés. Voilà, on peut vraiment s'interroger là-dessus. Ceci dit, moi je sais qu'il y a des pays quand même où les cours par ordinateur dans les écoles élémentaires existent depuis longtemps. Dans les collèges, les écoles élémentaires, je ne sais pas, mais dans les collèges, c'est sûr. Au Mexique, dans les régions rurales, on va dire, là où justement il n'y a pas assez de profs, les cours par ordinateur, ils existent. Et c'est pas des profs qui sont aux côtés des élèves, c'est des espèces de répétiteurs qui font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, donc.
Pour reprendre un exemple de ce qui se passe à l'étranger, moi j'ai quand même une petite info, alors je ne sais pas, on en a déjà parlé puisque ça commence à circuler, mais est-ce que vous savez que dans la Silicon Valley aux États-Unis, il y a une école privée, alors je crois que c'est l'école Waldorf of Peninsula, quelque chose comme ça, dans laquelle les cadres, Microsoft, Apple, Google, etc., inscrivent leurs enfants. Et alors cette école, elle a quelque chose de très particulier, c'est que jusqu'à 13 ans, on n'a pas le droit d'être devant un écran.
Et puis pourquoi ?
Voilà, on a des livres, du papier et un stylo.
Intéressant.
Voilà. Donc ça pose question quand même.
Moi, je voulais préciser aussi que tout le projet du numérique éducatif, tout le blabla autour, en fait, le fait qu'il y ait de nouvelles institutions, voilà, parce que la direction numérique, c'est quand même un nouveau cabinet ministériel, c'est du pognon de l'État qui est fichu là-dedans, c'est du pilotage, des missions, des formations, tout un tas de layus. Je suis allée voir sur le site de la direction de l'école numérique, et c'est hallucinant tout le jargon qu'il y a là-dedans, et ça s'est mis en place en partenariat avec le ministère du redressement productif. C'est-à-dire que ça fait aussi vraiment partie des enjeux économiques de redressement économique de la France. C'est cet aspect-là. Et après, j'avais envie de continuer aussi sur le côté bouleversement pédagogique. Alors, évidemment, le ministre Hamon, là, il présente le numérique comme quelque chose qui viendrait à la rescousse d'une école mal en point, et notamment pour lutter contre l'échec scolaire, pour lutter contre les inégalités sociales, pour redonner de la motivation sur les apprentissages. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Il y a différents usages du numérique, en fait, déjà. Et très concrètement, d'abord, du côté du prof, tout le monde ne l'utilise pas de la même façon. Le numérique, il est présent, mais en fait, il est assez peu utilisé comme outil interactif. Il est plutôt utilisé comme on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire on s'en cherche en tant que prof, qu'un site pour faire ses cours. Après, parfois on l'utilise juste comme ressource documentaire dans la classe, et parfois on met vraiment les élèves à travailler dessus, à s'échanger entre eux, à produire quelque chose. Voilà, tout ça c'est pas pareil. Et le dernier aspect, c'est le moins utilisé. Et il y a quelques enquêtes qui ont été faites à travers le monde. Alors, elles ne sont pas du tout, elles ne sont pas assez nombreuses, et elles ne sont pas faites sur une quantité d'élèves suffisamment significative. Mais les usages du numérique, ils ont des effets complètement différents, même par rapport à cette problématique de l'échec scolaire, par exemple. C'est vrai que ils peuvent être sur la motivation, ils peuvent avoir une influence, on le note, mais quelle est la motivation réelle ? Est-ce que la motivation, c'est tiens, j'ai l'ordinateur, donc j'ai plus directement accès à la connaissance, ça me passionne davantage, donc je vais plus travailler ? Ou bien est-ce que la motivation, elle est d'un ordre purement tactile parfois ? Parce que c'est l'écran est joli, il y a quelque chose qui bouge, qui passe. Donc, de quelle motivation on parle ? Ça questionne beaucoup. Et après, sur le type de travail que l'élève est amené à faire sur l'ordinateur, les exercices d'entraînement, c'est une chose, mais c'est complètement différent de ce qu'est
la compréhension. Ça n'enlève absolument pas le fait que il faut y être près de cet élève pour lui expliquer les choses. Il faut sentir à quel moment il a besoin justement d'être tiré vers le haut ou pas, à quel moment il faut revenir en arrière ou pas. Donc c'est on peut pas donner une réponse comme ça à cette question. Il n'y a pas de règle absolue. Ça dépend vraiment de tout un contexte.
Par contre, ce qu'on peut dénoncer, c'est l'hypocrisie du discours, parce que les inégalités scolaires, l'échec scolaire, il est lié à des inégalités sociales, et c'est pas en équipant les écoles de plein d'outils qu'on va régler les difficultés sociales, économiques de certaines familles, de certains enfants. Donc effectivement, moi je suis d'accord, c'est pas un Les machines, elles remplaceront jamais les personnes qui sont auprès des enfants, donc les enseignants, les surveillants, tous les éducateurs. Et je crois que la réduction de la fracture sociale et scolaire, elle passe par des créations de postes et des adultes, des classes à petits effectifs, des bonnes conditions de travail, du temps pour passer avec les élèves, pour travailler en équipe, etc. Et c'est pas tout ce miroir aux alouettes qui va réduire les inégalités sociales. Ça, c'est vraiment un discours particulièrement hypocrite, je trouve.
Moi, j'avais envie de dire, je crois pas du tout à l'intérêt de... Mais je pense que c'est un vrai changement d'école, en fait, de perspective d'éducation. Moi, je ne défends pas du tout l'idée d'apprentissage comme ça, individuel, devant un écran. Alors, même si on envisage quelque chose de plus interactif que juste être devant un écran et lire et prendre des notes ou faire du copier-coller, effectivement, même si on améliore tout ça, si c'est hyper interactif, avec des contenus vachement adaptés, etc., pour moi, ce qui disparaîtrait avec cette école, c'est quand même quelque chose que je trouve d'essentiel. C'est d'une part l'idée d'être à plusieurs dans un même lieu. Et je pense que ce qu'il y a aussi en perspective, quand même, c'est une certaine forme de disparition de l'école comme lieu, ou alors des lieux qui soient utilisés de façon hyper rentable, faut pas se leurrer. Ce qui disparaît aussi, c'est le corps. Comme si on n'avait pas d'enjeu à être ensemble avec notre physique, quoi. Et là, je le dis plusieurs fois, il y a le mot ensemble. C'est que pour moi, les apprentissages qui se passent dans une classe, ils sont très importants parce qu'ils se produisent avec un groupe, avec des pairs, et que tous les échanges entre pairs, les échanges entre une classe et un enseignant, c'est là que se produit du savoir, en fait. Et moi, je crois pas qu'on ingurgite, comme on n'ingurgite pas, je pense, de toute façon, un cours débité par un prof comme ça, de façon magistrale, je pense pas qu'on ingurgite quelque chose qu'on lit sur Internet, ou parce qu'on répond oui ou non, ou faux ou vrai, à un truc interactif. Je pense que c'est pas comme ça qu'on réfléchit, je pense que c'est pas comme ça qu'on construit de la pensée, et là moi je flippe, en fait, de ce qui est en train de se passer comme type de formation, comme type d'être humain, quoi. Voilà. Et ensuite il y a une autre chose avec laquelle moi je suis pas du tout d'accord, c'est le côté dépendance technique. Nous, on le voit tous les jours dans notre établissement, où on est mal équipé, ok, mais là, ils disent qu'ils vont faire plein d'efforts et tout. Moi, je trouve qu'il faudrait faire des efforts sur plein d'autres choses, mais même avec le meilleur équipement, on dépend des centrales nucléaires, on dépend des moindres coupures d'électricité, on dépend de la technique. Et ce que disait le côté médiation, là, ça s'interpose entre dans le savoir, la place de la technique devient gigantesque, et finalement, on est complètement absorbé par la gestion de l'outil. C'est la gestion de l'outil, mais aussi le fonctionnement de l'outil. Tu parlais de ces gamins qui étaient un peu fascinés par je sais pas quel machin, enfin en tout cas comme si la technique c'était le but, quoi, alors que je crois que c'est pas ça qu'on a à apprendre à l'école. Mais pour le coup, c'est effectivement des conceptions de l'école qui s'opposent, quoi. C'est on parle pas de la même chose quand on entend les industriels et les ministères qui promeuvent le numérique, et peut-être nous, mais peut-être pas que.
Mais ce qu'ils nous disent jamais aussi, c'est parce qu'un des arguments, c'est l'environnement. Voilà, on n'imprime plus, on économise du papier, etc. Mais en fait, ce qu'ils nous disent jamais, c'est que ce matériel, il est très vite obsolète, et qu'on produit des déchets super polluants qu'on envoie en Afrique ou en Asie, et c'est des petites mains laborieuses qui désossent tout ça, et qui voilà. C'est ça, on le dit jamais, mais je crois qu'il faut aussi le dire, quoi.
Il y a les rapports humains.
Voilà, j'allais le dire aussi, il y a tout ça. qui disparaît.
Ce que tu viens de dire, moi, c'est ça qui est aussi terrible. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une tête, un visage, un sourire ou une expression, enfin tout ce qu'on veut, on a un écran, on a une interface. Enfin, un ou une d'ailleurs. Une. Hein ?
Une.
Une.
Je sais pas.
Mais on ne sait même pas finalement. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est que les rapports humains changent. Et c'est le, enfin, c'est effectivement priver les élèves de plein de rapports sociaux qui sont, pour ma part, essentiels dans leur construction de leur propre personne. Et voilà, c'est eux par rapport aux autres, mais eux par rapport au monde, eux par rapport à eux-mêmes. C'est moi aussi, ça me fait flipper. Je te rejoins complètement. Ça me fait très peur. Et je pense que malheureusement on va pas du tout vers les créations de postes, plus de personnes dans les écoles, les concertations. On est en train de nous enlever tout ça et on va vers quelque chose vraiment qui fait peur.
Alors, en fait, cette histoire de corps, de la présence physique, etc., elle est importante non seulement sur le plan des relations entre les gens, mais elle a une influence réelle aussi sur l'intellect et sur l'apprentissage. Parce qu'en fait, quand on a quelqu'un en face, mais on le sait tous, on a eu des profs qu'on a détestés, on a eu des profs qui nous ont transmis des choses, quoi. Et donc, en fait, la façon qu'a le prof de transmettre, avec différentes méthodes, mais peu importe, ne rentrons pas là-dedans, mais en tout cas, la façon de personnaliser son enseignant a une influence directe sur comment on va se l'approprier. Donc, on en fait une élaboration intellectuelle. Quand on est face à un écran, il ne se passe pas la même chose. Je dirais qu'on peut peut-être comparer aussi à un niveau un peu antérieur, justement, c'est le fameux PowerPoint dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, si on a une conférence avec un conférencier qui lit son PowerPoint, moi, je ne vais pas prendre de notes, par exemple. Je vais regarder, surtout qu'on va me dire, ben non, de toute façon, après, tu vas pouvoir le mettre sur ta clé USB, le PowerPoint. Donc, je ne vais pas prendre de notes. Ou si je prends des notes, je recopie à toute allure parce que c'est tellement tentant la page qui nous est présentée. Quelle aberration intellectuelle il y a là-dedans ? Aucune. Donc, ce qu'on constate, et ça, il y a un certain nombre d'enquêtes qui le disent, c'est que il peut y avoir un effet négatif de cette pédagogie de l'informatique. C'est-à-dire, on est là, on a tout à disponibilité, on a besoin de rien savoir, de rien construire. Et donc, il y a une perte de capacité de mémoire, il y a une perte de capacité d'analyse. Donc, le cerveau humain est en train de se modifier. Donc, moi, j'ai pas seulement peur par rapport à l'école elle-même, ce qui me semble effectivement très grave, parce que on en a marre des effectifs surchargés qui font qu'on peut pas justement différencier, personnaliser l'enseignement, etc. Hein. Mais j'ai peur par rapport à la société. Je pense qu'on est en train de créer un modèle de gens qui me déplaît fortement. Il y a Michel Serres qui a écrit un livre qui s'appelle Petite Poussette, qui est assez dramatique, où il décrit une vision apocalyptique. J'ai l'impression que parfois il y souscrit, donc ça me fait un peu peur aussi. Mais voilà, le cerveau change complètement.
Alors, pour pas terminer sur cette vision apocalyptique de l'être numérique, est-ce qu'on peut se dire quelques mots une minute sur nos envies, nos utopies concernant le numérique à l'école ou pas de numérique à l'école, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire très très rapidement?
Moi j'ai trouvé, en préparant l'émission là, c'est vrai qu'on a lu pas mal de choses, on a beaucoup discuté, j'ai trouvé deux expressions que je trouve très très belles. C'est encourager le rapport aux autres plutôt que le rapport aux choses, et former les esprits plutôt que les formater. Voilà, donc moi ce que j'aimerais, c'est une école qui redonne de la place au temps, à l'imagination, à la poésie, à l'échange par la parole, à la sensibilité artistique. Voilà.
Ouais. Est-ce qu'on peut terminer là-dessus ou tu veux rajouter quelque chose?
Non, c'est très bien.
Bon, alors peut-être on peut conclure, parce qu'on va passer une petite musique de fin, en disant que Radiohead reprend et va reprendre régulièrement avec des émissions à peu près toutes les 6 semaines. On n'est pas très très rapide, hein. Mais voilà, donc on se revoit normalement quand? En novembre?
Le mercredi avant les vacances de Noël.
En décembre, voilà. Et bien à bientôt, et vous êtes toujours sur Canal Sud.
Et la musique, c'est Rencontre du Troisième Type.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
six quavers, then pause.
She sent us four quavers, a group of five quavers, a group of four semi-quavers.
The only thing these phrases have in common are five, six.
I hope somebody's taken all this down.
What are we saying to each other?
Seems they're trying to teach us a basic tonal vocabulary.
It's the first day of school, fellas.
We have a translation airlock on their audio signal. We're taking over this conversation now.